Bonjour Charlotte Caubel.
Bonjour.
Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait souhaité que la protection de l'enfance soit une priorité du prochain quinquennat. C'est donc pour conduire cette mission que vous avez été nommé au gouvernement auprès d'Elisabeth Borne. Vous devrez être une sorte de vigie, en quelque sorte, qui veillera à la prise en compte des intérêts des enfants dans toutes les politiques publiques. Avez-vous reçu des assurances sur la volonté du président de la République de faire de l'enfance une grande cause de son quinquennat et sur les moyens qui vous seront donnés pour y parvenir ?
Alors, incontestablement, dans sa campagne présidentielle, le président de la République a rappelé son souhait de faire de la protection de l'enfance de manière générale, un sujet prioritaire. Alors, ce n'est pas une grande cause, ça doit être la cause de tout le monde. C'est un peu le sens de ma nomination auprès de la Première ministre. C'est de faire en sorte que tous les ministères engagés sur les sujets de l'enfance, il y en a de nombreux, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, prennent en compte l'intérêt de l'enfant, les sujets de l'enfance dans leur feuille de route personnelle.
Parmi les missions que vous a confiées la chef du gouvernement, il y a le renforcement de l'attractivité des métiers de la protection de l'enfance afin de lutter contre la pénurie de professionnels que connaît le secteur. Comment s'explique cette pénurie ?
Alors, plusieurs secteurs sont en pénurie, en particulier le secteur du travail social et au sein du travail social, le secteur de l'enfance, que ce soit dans les crèches, que ce soit dans les établissements de la protection de l'enfance. On a eu un effet, on a plusieurs effets. Le plein emploi contribue évidemment à mettre en tension un certain nombre de métiers. Tous les métiers de l'accompagnement sont des métiers difficiles, donc qui sont parfois...
Ouais, on n'est pas au plein emploi en France. Hein.
Non, mais c'est vrai que la diminution nette du chômage, la crise sanitaire, tous ces éléments extérieurs ont complexifié le recrutement.
Mais ce sont des métiers qui n'attirent plus aussi qu'ils sont durs, parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés, pas suffisamment reconnu.
Alors, vous évoquez toutes les situations. Oui. Ce sont des métiers qui sont compliqués. Les enfants qui sont confiés dans les écoles et dans les établissements qui suivent des enfants en difficulté sont des métiers qui ne sont pas simples. On a effectivement un sujet de revalorisation. Vous avez parlé de la revalorisation salariale. Un certain nombre de dispositions ont déjà été prises. C'est le cas des dispositions du Ségur social. Mais on a aussi un sujet de revalorisation des métiers, de l'image de ces métiers, souvent. On fait état des crises, il y a eu des graves, des scandales dans un certain nombre d'établissements. Moi, je tiens aussi à dire que la grande, grande majorité de ces professionnels sont engagés auprès de nos enfants et qu'il n'y a pas plus beau métier que de s'occuper des enfants et notamment des enfants les plus fragiles. Nous allons travailler aussi pour aller chercher des élèves, des étudiants sur ces métiers-là pour améliorer cette filière de recrutement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais la première des choses à dire, c'est venez sur ces métiers, c'est tellement essentiel d'accompagner nos enfants.
Vous souhaitez provoquer un MeToo des enfants, c'est l'expression que vous avez employée, en tout cas qui vous a été prêtée.
Voilà.
Je ne sais pas si vous la revendiquez.
Alors, je ne suis pas tout à fait sur un MeToo. Je vous dis, et je le redis, et je veux sensibiliser nos concitoyens, il y a un angle mort dans ce pays, c'est les violences commises sur les enfants. Si je vous dis qu'un enfant meurt dans son contexte familial tous les 5 jours en France, j'imagine que vous êtes un peu stupéfait par ces chiffres. Si je vous dis que nous évaluons à peu près à 160 000 victimes par an d'enfants victimes d'infractions sexuelles, c'est aussi un chiffre qui doit nous interpeller. Donc mon objectif, c'est d'abord...
Mais vous appelez donc, cette expression de MeToo qui, encore une fois, vous a été prêtée, c'est l'idée d'une libération de la parole.
Alors, je pense qu'il faut faire attention parce que déjà, on a vu comme il était complexe de libérer la parole des femmes. Oui. Comment peut-on faire un rapprochement avec les enfants? C'est compliqué.
Un bébé secoué... Et on sait aussi que la parole des enfants doit être entendu avec beaucoup de discernement.
Voilà, on a un sujet, d'abord, tous les enfants ne peuvent pas parler. Un bébé secoué, on ne peut pas dire le MeToo du bébé secoué. Donc moi, je souhaite surtout libérer la parole des adultes autour des enfants. Il faut signaler dès qu'on a un doute. Or, aujourd'hui, on voit bien que les adultes qui entourent les enfants, que ce soit dans les familles, dans les écoles, dans le périscolaire, ont une certaine réticence parce qu'ils partent du principe que les parents et que l'environnement est toujours favorable. Il faut libérer la parole des adultes. Donc, c'est pas plutôt un MeToo, c'est levons ce voile sur la réalité. Aujourd'hui, en France, il y a plus d'enfants qui meurent dans le contexte familial que de femmes. Il faut en avoir conscience. Le silence est parfois parfois aussi une violence, levons la parole des adultes. Mmh. Il y a des numéros qui sont finalement assez peu utilisés, alors même qu'ils existent. Je vous parle notamment du 119, Enfance en danger. On voit bien que les adultes ont du mal à s'en saisir. Si vous entendez quelque chose, si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler le 119.
Parmi vos missions, il y a la lutte contre les addictions, notamment les addictions numériques. Je passe sur celle des drogues, de l'alcool, du tabac, etc. Mais il y a les addictions au numérique, les jeux vidéo, et peut-être plus encore, les réseaux sociaux, qui sont un espace où toutes les dérives existent. Le harcèlement, la pornographie, ça c'est un travail assez titanesque. Comment allez-vous vous y prendre? Par où allez-vous commencer?
Alors, trois choses différentes sur le numérique. D'abord, le temps et l'addiction aux écrans. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté. On a des enfants qui sont trop devant les écrans.
Et on a des enfants qui sont devant des téléphones portables dès l'âge d'un an et demi.
Très, très petit, un taux d'utilisation des écrans trop important. Là, je crois qu'il va falloir avoir un message très, très clair diffusé partout, dans les carnets de santé, dans les carnets scolaires, un peu partout. En dessous 3 ans, pas d'écran. En dessous 10 ans, peu d'écran. Donc déjà une prévention sur le temps d'écran. Mais au-delà de ça, on a deux autres sujets. D'abord, le numérique peut être un lieu d'agression. Il y a du cyberharcèlement, on peut être une proie. Donc il faut impérativement travailler avec l'ensemble des plateformes et avec les parents pour prévenir et répondre au cyberharcèlement. Dernier axe très important, l'accès des enfants au contenu violent. On estime qu'à peu près à 10 ans, l'âge moyen de vision par les enfants d'images pornographiques. Voilà quelque chose qui doit interpeller les parents et voilà quelque chose que nous devons travailler avec les plateformes. Vous le savez peut-être, il y a quelques semaines, l'Europe a adopté un texte très important, le Digital Service Act, qui va nous permettre de travailler avec les plateformes numériques sur ces sujets d'accès au contenu violent pour les enfants.
Il nous reste assez peu de temps, mais la Première ministre souhaite que vous suiviez de près la situation des mineurs qui sont victimes des crises internationales. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur les mineurs revenus de Syrie, dont d'ailleurs la Première ministre vous demande de suivre au plus près l'évolution. Combien d'enfants ont été rapatriés ?
Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 enfants qui sont en France, sur notre territoire, et qui sont revenus des territoires de combat de Syrie.
Dont un certain nombre tout récemment.
Mais en fait, les retours
ont été... Dans quelle tranche d'âge sont-ils, ces enfants?
La grande majorité, plus de la moitié, ont moins de 10 ans. On est surtout sur des petits-enfants. Je voulais réaffirmer ça pour rappeler ça à nos concitoyens. On parle d'enfants français qui n'ont pas choisi la radicalité, qui n'ont pas choisi les crimes et les délits commis par leurs parents et que nous devons protéger. Je suis d'autant plus à l'aise à vous dire ça que les associations de victimes de terrorisme, et notamment Life for Paris, appellent à ce que l'on considère ces enfants comme des victimes. Nous devons les protéger. Nous les protégeons. Quand ils arrivent en France, sous l'autorité du parquet national antiterroriste, l'ensemble des acteurs, l'école, la santé, les forces de sécurité intérieure évidemment, mais aussi la protection judiciaire de la jeunesse, accompagnent ces enfants au quotidien pour qu'ils retrouvent leur place dans notre pays.
Aujourd'hui, en la matière, pour ce qui est des enfants en Syrie, est-ce que la politique de la France est toujours le cas par cas ?
Je pense effectivement que la politique de la France est de conduire des opérations qui sont extrêmement complexes sur le territoire. Donc il faut d'abord identifier, repérer, et puis après procéder à des rapatriements. Vous imaginez bien, en territoire de guerre, tout ça n'est pas simple. Ça relève évidemment du Conseil de défense et pas de ma compétence, mais de continuer à rapatrier ces enfants, et effectivement, au cas par cas, ou en tout cas, opération par opération.
Merci Charlotte Kobel.
Bonne journée. Merci beaucoup.